Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 à la Fulgence Sport au micro et Nicolas Vatman à la technique. Oui, c'est parti, c'est mardi en première partie d'émission. J'ai choisi quelques sujets pour vous et en deuxième partie, je vais recevoir Chantal Lambert, la soprano, directrice de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Il fait une collaboration avec l'orchestre de l'Agora qui présentait les Enfers des Lumières. Voilà. Ça se passe aujourd'hui et demain. Les détails un peu plus tard en deuxième partie d'émission, juste après la petite pause publicitaire. Comme à l'accoutumée, on va tout de suite en musique. Avec qui? Candy Dalfour. Ouais, Dalfour, don't go. son du Dolpher, Don't Go. Oui, voilà. On est en début d'émission comme ça, je vais parler tout de suite de la Russie et de la Biélorussie. Pourquoi la Biélorussie? Parce qu'elle a accepté à la Russie de rentrer en Ukraine à travers son territoire. Bien sûr, elle a eu des éléments, les pourparlers, les rencontres, mais c'est pas clair. Permettre à la Russie aussi de mettre les armes nucléaires sur son territoire. Bon, ben, donc les instances sportives internationales ont pris des décisions depuis lundi 28 février. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Voilà, ça va tellement vite, on est déjà en mars 2022. Voilà, donc la Russie et la Biélorussie ont été exclus. Bon, d'abord la Russie, d'abord, parce que la Biélorussie, de toutes les façons, elle n'est pas tout le temps, partout. Donc, la Russie a été exclue du mondial, la Coupe du monde du football. La FIFA a pris la décision hier, dernier jour du mois de février 2022. Donc, la suspension des sélections nationales et des clubs russes jusqu'à nouvel ordre, en réaction à l'invasion, bien sûr, de l'Ukraine. Voilà, c'est ça. C'est un communiqué qui a été fait, un communiqué commun avec l'UEFA, c'est-à-dire cet organisme européen, bien sûr. La FIFA, c'est international, la Fédération internationale de football. Voilà, et puis, donc là, il n'y a pas de demi-mesure. Là, ça continue, je ne sais pas comment ils vont faire avec ça. Et pourtant, la Russie était le pays hôte, hein, le pays hôte d'ailleurs, en 2000, au Mondial 2018. Les Russes sont qualifiés des barrages de la prochaine édition, qui devait disputer en fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi du Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Mais la Pologne, prochain adversaire, a dit non, moi je ne vais pas les rencontrer là. Non, je ne joue pas avec eux. Il y a la Suède aussi qui a pris la décision de ne pas jouer contre eux. Et aujourd'hui, même il y a une jeune tennis women ukrainienne qui devait rencontrer bientôt, je ne sais pas à quel tournoi, mais le plus important, c'est qu'elle ne veut pas rencontrer son adversaire russe. Ça, c'est fait. Alors, on va voir la réaction de l'organisme international de tennis, parce que toutes les organisations internationales sportives ont pris toutes leurs décisions, presque ou presque. Les décisions ne veulent plus voir les clubs, les équipes nationales russes ou bien les athlètes, je ne sais quoi. C'est le CIO qui a commencé. Ouais. Donc, c'est le Comité international olympique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, les décisions, on dit, mais tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça n'empêche pas le gouvernement russe ou bien le président Poutine de continuer sa frappe ou bien son attaque, de faire avancer les chars de guerre sur le territoire ou bien près de la capitale, Kiev, qui est la capitale. C'est le berceau de l'histoire russe, même d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il tient à tout prix à aller envahir cette ville, Kiev. Voilà. Donc, qui a fait la déclaration dernièrement? C'est Gianni Infantino pour la FIFA qui dit « Le football est ici totalement uni et plein. » Et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Bon, les deux présidents, Gianni Infantino de la FIFA et Alexander Seferin pour l'UEFA, espèrent que la situation en Ukraine va s'améliorer significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d'unité et de paix entre les peuples. Ça a très bien dit ça. On espère. Parce que si tout prend fin d'ici demain, après-demain, je pense bien qu'ils vont revenir sur leur décision pour que les équipes nationales de la Russie, ou bien ils vont dire non, le mal est déjà fait, on ne peut plus faire un pas en arrière, c'est fini. Alors moi, je pense aux sportifs, hein, les athlètes, les sportifs russes, bon, c'est pas eux qui dirigent le pays, mais ils font partie de la Russie quand même. Voilà, on ne peut pas dire, on le laisse faire le président de la République, et puis bon, les sportifs, on leur permet d'évoluer. Je comprends à ma manière. C'est pas une raison. La jeune tennis women, joueuse de tennis, c'est ukrainienne qui dit non, je ne veux pas rencontrer la prochaine adversaire qui est russe. Ça n'engage qu'elle. On n'a pas à la juger. C'est sa décision. C'est son pays qui est attaqué, c'est normal. Et sa prochaine adversaire est originaire de ce pays. Elle se dit non, je ne veux pas aller de l'avant avec ça. Alors, donc là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une réaction, bien sûr, de la fédération russe. Les gens ont voulu changer les noms comme ils ont fait au JO, tout ça a changé un peu, même pas la fédération russe, ils ont donné un nom, la ROC, je ne sais quoi, pour permettre aux athlètes russes d'être présents aux Jeux Olympiques. Mais cette fois-ci, les gens ont dit non, pas de demi-mesure. Si c'est la nation russe qui, le gouvernement russe, c'est pas les sportifs bien sûr, mais il faut prendre une décision claire pour dire à ce que ce gouvernement fait actuellement n'est pas acceptable. Donc, on dit, le monde entier dit bravo à la FIFA et à l'UEFA. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? T'aimerais dire un mot, toi, Nicolas? Tu prends ton micro, s'il te plaît.
Ben, c'est sûr que moi c'est sûr que on voit plein d'affaires au niveau de les Russes qui eux combattent pour prendre le territoire et les Russes qui sont contre le ça, tout ça.
Oui, oui.
Donc c'est sûr que moi je trouve ça triste que c'est sûr qu'il y a des personnes qui prennent la conséquence de vivre dans ce pays-là, mais en même temps, ça reste qu'ils sont associés à ce pays.
Je sais qu'il y a des démonstrations en Russie, ouais. Et ils sont automatiquement arrêtés. Mm-hmm. Il y a plus de 1 000, 2 000, 3 000 personnes qui sont déjà arrêtées. Alors non, on ne leur permet même pas de manifester, là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Mm-hmm. Alors, donc quand on voit tout ça, donc, d'ailleurs, il n'y a pas de parti d'opposition. Les opposants ont été tués ou bien sont en prison. C'est pas différent non plus en Chine. Voilà, bon, ok. J'aimerais bien sortir d'ici tranquillement et rentrer chez moi sans aucune égratignure. Voilà. Donc, l'Euroleague a également suspendu les 3 clubs russes qui prennent part à la compétition phare du basket européen. Mais les sanctions annoncées par la FIFA et l'UEFA sont la concrétisation aussi la plus spectaculaire des recommandations du CIO. Bon. Ils auront sa longue tradition de neutralité. C'est fini. On disait que le sport n'avait rien à voir dans la politique, mais cette fois-ci, mais quand même, on est au 21e siècle. Et disons, on est en 2022. On ne peut pas se permettre de tout accepter, de tout avaler, sous prétexte que oui, il y a des pays qui se sont comportés comme ça avant et qui n'ont pas été sanctionnés. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? On dit, on est en 2022. Là. On n'est même pas encore sorti du tunnel du maudit virus de Corona, du je ne sais quoi. Il y a une guerre qui se déclenche de l'autre côté avec des armes nucléaires, comme si l'Ukraine disposait le plus grand stock d'armes nucléaires dans le monde. Allez-y, comprendre quelque chose, quoi. C'est Goliath contre David, David contre Goliath. Je ne sais pas. Bon, voilà. Et puis il y a un gros contrat qui a été aussi rompu, privé de mondial. Il y a le Gazprom, c'est la plus grande compagnie de gaz d'ailleurs en Russie. Ouais, isolée par le monde sportif, la Russie se retrouve isolée. Ça, il faut le dire. Attendant les décisions du Comité international paralympique qui a prévu de s'exprimer demain 2 mars, à 2 jours du coup d'envoi des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin. Voilà, un pays qui a échappé belle aussi avec ces gens de suspension. Voilà, on peut pas dire autre chose. Il y a plusieurs fédérations nationales, dont celle du des champions du monde français qui s'était dite favorable à une exclusion pure et simple de la Russie du mondial, événement sportif majeur de l'année 2022. Je ne sais pas ce que les coureurs de Formule 1 ont décidé maintenant. Ah, ils ont annulé déjà. Ils ont annulé la course qui doit avoir lieu là-bas en Russie, à Saint-Pétersbourg, bien je ne sais où là. Donc, le contrat de Gazprom avec l'UEFA, estimé à un montant de 40 millions d'euros. Ça fait 40 millions d'euros. Ça fait à peu près les 45, combien, je sais pas, 50 millions de. J'ai pas de conversion là, en tête là pour moi maintenant, de dollars canadiens. Et c'est ce qui couvre la Ligue des Champions, les compétitions internationales organisées par l'UEFA, ainsi que l'Euro 2024 qui sera organisé en Allemagne. Alors, à tous ceux qui se disent, mais pourquoi des. Ça fait partie des sanctions économiques, les sanctions qui ont été prises par les gouvernements de l'Europe, d'Europe, et puis bon, les gouvernements nord-américains, bien sûr, les États-Unis et le Canada. Il y a des pays qui s'y opposent. Je ne vois pas la Chine en train de. Mettre des sanctions contre la Russie, l'Inde aussi qui s'est opposée à un vote là-bas à l'ONU. Bon, donc c'est des choses comme ça. C'est la guerre. Bon, on dit, j'espère bien qu'ils vont aller de l'avant. Même le président du club le milliardaire russe qui a le club qui a acheté le club de Chelsea en Angleterre. Oui, Premier League. Bon, ben, il a été obligé de céder la direction de son club au CA, à un membre du CA, parce que les gens ont commencé à critiquer. Ils ont dit non, ça ne va pas comme ça. Là. Voilà. Même s'il est milliardaire, c'est son pays qui attaque. Et puis bon, il y a des artistes qui ont perdu leur poste dans la musique classique, si je ne me trompe pas. Quand vous écoutez les médias, tout passe partout. Quoi. On se dit, mais ceux-là, ils ne sont pas concernés. Mais ils ont des liens directs avec le chef de l'État. Voilà, Poutine, c'est ça. Les décisions qui sont prises comme ça, on ne les prend pas comme ça au hasard ou bien comme ça, en claquant les doigts. Quoi. Donc, on espère que tout ça va se calmer rapidement. Demain, ils vont avoir une deuxième rencontre. C'est-à-dire les autorités russes et les autorités ukrainiennes vont se rencontrer demain encore à la frontière de la Biélorussie et de l'Ukraine. on ne sait pas ce que ça va donner, ou bien c'est juste une comédie, j'ai aucune idée. Voilà, on espère, croisons les doigts, que ça va donner quelque chose. Parce que là, moi, je me dis, bon, je parle comme ça, je parle de ça parce que je me dis, une troisième guerre mondiale, on n'en a pas besoin, sincèrement. On n'a pas besoin d'une troisième guerre mondiale. On n'a pas vécu, notre génération n'a pas vécu la première ni la deuxième, mais une troisième guerre mondiale, nous n'en avons pas besoin. On a lu les histoires, les conséquences, et puis les très tragiques, et puis malheureuses d'ailleurs, et dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui, encore, il y a des documentaires qui passent sur ces deux guerres. On se dit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Un peu de musique. Voici Stiop avec la complicité de Lokua Kanzadinao. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, je vais parler. Ouais, ça c'est le 1er mars, bien sûr, le mois de mars a toujours été le mois. Ouais, francophonie, le mois de la francophonie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Francophonie, le mois de la francophonie 2022. Chaque année, c'est comme ça, le mois de mars, tout le mois. Il y a des activités partout au Québec et dans tout le Canada francophone, pas seulement au Québec. En Ontario, ouais. Chez nos frères acadiens aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Sylvain Lavoie, le président directeur général de la francophonie, du Centre de la francophonie des Amériques, dit « Le Centre est heureux de proposer des occasions de célébrer la francophonie à travers notre histoire, notre langue, notre diversité, notre culture. » Et à nouveau, cette année, nous nous sommes associés à des partenaires de choix qui partagent nos valeurs et notre envie de mettre en mouvement la francophonie des Amériques pour vous faire vivre de beaux moments. Voilà, Sylvain Lavoie, qui est président directeur général. C'est un acadien, il est d'origine acadienne, voilà. Il y a la ministre Sonia Labelle, la ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, qui dit « J'invite les francophones et les francophiles à prendre part aux activités proposées par le Centre de la francophonie des Amériques et à célébrer le mois de la francophonie. C'est l'occasion de se rassembler et de partager ce qui nous unit, francophones du Québec, du Canada et des Amériques. » Voilà, c'est comme ça. Même si nous sommes en minorité, c'est une manière pour nous de mettre la langue en valeur. Oui, pour permettre aux gens, aux francophiles aussi, de s'intéresser à notre langue et de pouvoir communiquer tout le temps avec nous en français, mais pas tout le temps nous saluer high et haute là, directement en français. Moi, je connais pas mal d'anglophones qui sont quand même bilingues, qui parlent français. Quand ils me voient, c'est pas en anglais qu'ils me parlent, c'est en français qu'ils me parlent. Alors, tout le mois de mars, allez-y sur le site là-bas, francophoniedesamériques.com. C'est en un seul mot, hein, francophonie des Amériques, pas d'accent à Amérique. Voilà, sinon ça marche pas. Oui, ça marche pas. Francophonie des Amériques en un seul mot au pluriel, francophonie des Amériques au pluriel, .com. Vous allez trouver toute la programmation. Et oui, c'est le Centre de la francophonie des Amériques qui organisation au cœur de la francophonie au Québec, au Canada et dans les Amériques depuis plus de 14 ans. Oui, c'est pas 14 jours, c'est pas 14 mois, c'est pas 14 secondes. Hein. 14 ans bien comptés. Oui, voilà, qui offre cette programmation aux francophones. Cette programmation variée, invitant le public à découvrir les différentes cultures francophones présentes sur notre grand continent. Donc, ça met de l'avant l'histoire, la culture et la littérature francophone. La programmation est composée d'activités entièrement en ligne et gratuites, comme des panels, des ateliers, des films, des suggestions de lecture de la Bibliothèque des Amériques et un concours qui pourront plaire aux francophones et francophiles habitant le continent. Ça, faut pas les rater d'ailleurs, il va falloir qu'un effort se fasse pour que quelques francophones qui dirigent certains organismes viennent nous parler de ça ici, à Escale 17-18. Hein, Nicolas, on va mettre l'accent là-dessus pour trouver des gens. Le président Sylvain Lavoie, il est déjà passé les deux dernières années sur les ondes de Canal M, je ne sais pas si on peut l'avoir, en fonction de sa disponibilité bien sûr, afin qu'il vienne nous parler de ça. Voilà, les personnes invitées. Programmation, panel Jack Kerouac, 100 ans, toujours vivant, 15 mars 2022, à 18h, en ligne, gratuit, traduction simultanée en anglais. Oui, organisé par le centre en collaboration avec la délégation du Québec à Boston. Trois panélistes vont vous présenter différents aspects de l'œuvre et de l'héritage de Jack Kerouac, un écrivain américain d'origine franco-canadienne. C'est ça, c'est ce qui fait qu'il est très populaire ici. Et d'origine qui a marqué le 20e siècle, je dis bien le 20e siècle, pas le 21e siècle, le 20e siècle. C'est-à-dire avant l'an 2000. Voilà, c'est comme ça. Parce que le 21e siècle a commencé à partir de l'an 2000. Et puis les personnes invitées seront Herménégible, Chiasson, réalisateur du film Le Grand Jack, Nouveau-Brunswick, Canada. Oui, Jack. Jean-Christophe Cloutier, auteur de La vie est dommage, professeur associé d'anglais et de littérature comparée à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, et Suzanne Pinette, qui est directrice des programmes franco-américains au Centre franco-américain de l'Université du Maine aux États-Unis. Voilà, ça, je vais vous parler de cet événement pour nous, les francophones et les francophiles des Amériques, tout le mois durant, à toutes les émissions du mois de mars. Je vais revenir, j'aurai deux mots, trois mots, quatre mots à dire là-dessus. Ça, faites-moi confiance, je vais pas vous lâcher. Hein. C'est notre fête, voilà, c'est notre mois, voilà. Le mois de francophonie, le centre nous en parle. On va en musique, hein, Nicolas, on termine avec une pièce en français, bien sûr. C'est qui? C'est Jamil. Et avec la complicité de Amélie Veille, sur ton bord de mer.
Sur ton bord de mer, là où roulent les caplans, t'as appris à te taire, à écouter le vent.
Colorado de tes rêves d'enfant.
Sur le bord de tes mots, il y a l'amour tout le temps. Il y a le temps que tu perds, il y a le temps que tu prends. Et sur le bord de ton cœur, tout l'amour à donner. Car tu sais par cœur qu'il n'y a que ça de vrai. Qu'il n'y a que ça de vrai.
Soleil en hiver qui veille sur ton royaume.
Sur les galets d'en arrière, des chapelets de prière voguaient il y a pas longtemps sur les vagues en pleurant. Au jardin d'en avant, des rosiers sauvages, la seule arme du village pour éloigner les méchants. Sur le bord de ton cœur, tout l'amour à donner. Car tu sais par cœur qu'il n'y a que ça de vrai. Qu'il n'y a que ça de vrai.
Bonjour.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas. C'est Lucas Lagoa, Greg Sweet-Holberg, sous la direction de Nicolas Ellis. Notre invité déjà au bout du fil, Chantal Lambert, directrice de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, qui sera en collaboration avec l'Agora. On présentait les Enfers des Lumières. Ça va être aujourd'hui et demain au Monument National qui est situé au 1182 boulevard Saint-Laurent. Chantal Lambert, c'est une grande soprano. grande soprano. Chantal, pourquoi vous riez?
Bonsoir. Ah, ça me fait toujours plaisir de me faire présenter comme une chanteuse alors que j'ai passé beaucoup des dernières années à faire
la direction. Oui, mais vous restez quand même
une direction de l'atelier.
Oui, mais vous restez quand même une grande soprano.
Ah, merci.
Quand j'ai découvert votre voix dans les différentes pièces sur YouTube que j'ai pu écouter, je me suis dit waouh.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Avec plaisir. Alors comment avant de partir, bon, je vais parler de vous, on va parler de vous un peu plus tard. Comment cette collaboration, qui a provoqué cette collaboration là entre l'atelier lyrique
l'Agora? C'est en train de devenir une tradition, vous savez, parce que c'est notre cinquième collaboration de la sorte dans les cinq dernières années.
Oui.
Il y a cinq ans, on avait eu la visite de ce jeune chef prodigieux, Nicolas Ellis, qui fondait un orchestre émergent, en fin de compte, un orchestre de jeunes musiciens.
Oui.
Et qui en était déjà à quelques éditions de concerts et qui avait une vocation sociale importante. Et il était venu nous rencontrer à l'atelier lyrique. Nous avait manifesté le désir d'allier nos forces,
oui,
parce que nous formons la relève des jeunes artistes lyriques. Donc, il s'était dit ben, ça serait chouette si on pouvait faire un projet commun. Et c'est ça qui est arrivé il y a cinq ans avec d'abord un projet Mozart. Et ensuite, on a tellement aimé notre collaboration qu'on a récidivé comme ça chaque année. On s'est trouvé des projets. Et au moment où on se parle, on est presque sur le bord d'accoucher de ce beau concert, les Enfers des Lumières, et on pense déjà à ce qu'on va faire ensuite, parce que c'est trop chouette de travailler ensemble.
Oui, c'est aujourd'hui et demain.
Oui,
Deux soirées. Vous avez pris la relève d'Yvonne Gaudreau en 1990.
Hey, ça fait longtemps, hein?
Ouais, ça fait bail.
Vous savez tout ça, mais oui, j'ai succédé à la fondatrice de l'atelier lyrique.
Oui.
Après moi-même y avoir fait un stage de 3 ans. Donc, j'ai tellement aimé mon séjour à l'atelier que je ne l'ai jamais quitté.
Ouais, ouais. Vous êtes restée fidèle au poste?
Fidèle à mon alma mater. Mm-hmm. J'ai grandi avec la compagnie, en fin de compte, et j'ai vu la destinée de l'atelier aussi se transformer au fil des ans. Et mm-hmm. On a vraiment développé un programme pour jeunes artistes qui soit unique mm-hmm. au Canada et, je dirais même, dans le monde, parce qu'on y ajoute une dimension humaine très, très importante. Et aussi, on est un des seuls programmes qui travaille dans les deux langues ici, en tout cas au Canada. Et on accueille des jeunes d'un peu partout. Et on a vraiment le désir de les faire s'épanouir comme dans leur singularité à chacun. Que
oui.
Chacun se sente à l'aise d'être différent, de ne pas correspondre à un stéréotype.
Oui.
Fait. Oui, c'est ça.
Alors, parlez-nous un peu des Enfers des Lumières.
Oui, alors c'était suite aux différents projets qu'on avait faits. On avait fait un Mozart, on avait fait un Britten, on avait fait du bel canto. On s'est dit l'année dernière du Mahler, du répertoire allemand.
Oui.
Alors on s'est dit allons vers du répertoire français, mais pas nécessairement de l'opéra romantique français qui demande une grosse formation orchestrale et qui demande des voix très 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 matures. On s'est dit allons vers le baroque, la musique baroque française, et on a un professeur de chant à l'atelier qui adore ce répertoire et qui s'est dit ça va être une bonne école pour nos jeunes. Et puis c'est quelque chose qui est pas fait souvent à Montréal aussi.
Oui.
Alors on a décidé de tenter l'aventure, et pour Nicolas aussi, c'était une autre corde à son arc, et il développe une large palette comme chef. Alors tout le monde y trouvait son compte en fin de compte, et puis ça donne un beau spectacle avec une fraîcheur. François Racine, qui en est le metteur en scène, a vraiment amené un souffle très, très particulier.
Oh, oui. Avec 26 ouais. musiciens de l'Orchestre de l'Agora et 10 solistes de l'atelier de votre atelier lyrique de l'Opéra de Montréal.
Ouais. Exactement.
Wow. Oui.
Il y a beaucoup de monde sur scène, beaucoup de belles jeunes personnes, et puis ça, c'est vraiment très agréable comme concert. Il est très varié aussi, les différents entre les ouvertures d'orchestre, les passages orchestraux, les solos, les ensembles aussi. Il y a plusieurs ensembles, beaucoup. Donc il y a une mise en scène et des costumes et des très beaux éclairages.
Oui.
C'est très beau.
Chantal, comment vous vous sentez à quelques heures de l'événement? Ça démarre aujourd'hui.
Oui, On se sent fébrile. En même temps, je trouve que les gens sont prêts. Ils ont travaillé beaucoup dans les derniers jours. On n'a presque pas pris de congé dans les derniers jours parce qu'on savait qu'il fallait mettre le paquet. Puis aussi, bon, évidemment, avec les circonstances aussi, on ne savait pas d'abord si on aurait du public en salle, si ce serait seulement une captation.
Très rapidement. Est-ce que vous avez droit à 50% ou bien 100%?
Non, à partir d'aujourd'hui, c'est la salle comble.
Wow.
Je sais pas combien on va pouvoir avoir de gens parce que bon, on est vraiment à la limite. Là. Ça commençait aujourd'hui.
Je suis très content pour vous. Ça va bientôt. Voilà. Ah, je me suis dit, mais avec ces histoires de restrictions sanitaires et autres, là, vraiment, je suis très content pour les deux soirées que vous allez avoir aujourd'hui et demain. Comment vous faites le choix dans votre atelier? Toutes ces têtes, ces noms que je vois ici, Marc-André Brûlé, ténor, Vanessa Krohn, soprano, Sarah Dufresne, soprano. Comment est-ce que vous faites la liste de vos musiciens? Comment vous les choisissez? Vous faites partie de cette collaboration avec l'Agora.
Oui, c'est ça. Ça dépend des années, en fait. Par exemple, l'année dernière, on avait seulement 5 solistes qui participaient. Oui. C'était un choix qu'on avait fait parce qu'il y avait différentes productions à l'Opéra de Montréal qui étaient en même temps, qui impliquaient certains autres de nos jeunes.
Oui.
Donc, mais cette année, comme les productions avaient été reportées à cause de la COVID et tout ça, on s'est dit, on va donner la chance à tous nos artistes de la saison de faire partie de ce projet-là pour pouvoir monter sur scène parce que certains d'entre eux sont avec nous depuis 2 ans, mais n'ont jamais eu l'opportunité de le faire. C'est assez triste. On s'est dit, non, donnons-leur la chance de briller. Le fait de choisir ce répertoire-là, qui sont des extraits de 3 compositeurs, là, Rameau, Lully et Gluck, on s'est dit, ben, chacun va avoir son moment pour se faire valoir.
Oui.
Les gars sont plus dans des ensembles, mais ils ont tous leur moment où ils veulent briller. Ça, c'était très important pour moi. Il n'est pas dit que dans un autre projet, éventuellement, on ne va pas restreindre un plus petit nombre ou choisir une œuvre de chambre, par exemple, avec qu'on fasse de A à Z. On l'avait fait avec The Turn of the Screw à la 2e édition de notre collaboration.
Oui.
Donc, on y va vraiment selon les besoins de la saison, puis des jeunes artistes qu'on a aussi. Et aussi, on essaie de choisir quelque chose qui va plaire au public et qui va faire découvrir des choses. Cet après-midi, à la Générale, on avait un groupe d'étudiants, des jeunes enfants qui étaient là et qui ont été d'une écoute extraordinaire. Mm-hmm. Fait que ça aussi, ça fait plaisir quand on peut partager avec tout le monde.
Quel est votre petit... C'est pas, je pense bien que c'est le talent. C'est pas seulement le talent qui fait que vous êtes très apprécié dans ce milieu-là. Quel est ce petit truc que vous avez, que tout le monde vous apprécie dans le milieu? Chantal Lambert.
Tout le monde vous apprécie,
vous personnellement.
Oh là là, vous vous placez là. Je sais pas si c'est ma passion pour la parole chantée.
Oui.
Je suis dans le métier depuis, vous savez, depuis 1987, en fait, quand j'ai fait entrer à l'atelier. Depuis ce temps-là, ma passion ne s'est jamais étiolée.
Oui.
S'il y a quelque chose, c'est enflammé davantage encore. Et je vois les jeunes et je me sens en complète empathie avec eux parce que je sais tout ce que ça demande d'effort et d'énergie pour s'imposer dans ce milieu qui est quand même très compétitif.
Mmh.
Et en particulier, en ce moment, avec ce qu'on vit, ça demande une grande dose d'empathie parce que ces jeunes-là, ils se donnent corps et âme, ils ont consacré énormément de temps et d'énergie à leurs études, et puis là, ils sortent de l'école, puis ils se retrouvent devant un mur, en fin de compte. Donc, il faut déployer tout ce qu'on a d'amour pour notre travail, pour notre art, et leur communiquer. Alors, en tout cas, si vous me dites que je suis appréciée, j'en suis ravie, mais c'est sans doute parce que j'ai ce sacré et que je le partage abondamment.
Oui, parce que dans mes recherches, je suis tombée grande communicatrice, grande pédagogue. La pédagogie que vous avez, j'ai dit, ouais, c'est vrai, quand on entend même la voix, on sent que c'est une personne qui doit savoir aller avec les jeunes gens qui passent là à l'atelier. On va écouter votre voix pour ceux qui l'ont jamais. Pourquoi vous faites?
Voilà.
On va faire une petite pause avec votre voix et puis on continue notre conversation, Chantal.
D'accord.
Ton cœur trop léger, même le
Chantal Lambert. C'était au festival, au Festivois, en juillet 2011.
Oui, c'est un beau souvenir.
Oui.
C'était dans un répertoire français d'un autre style. Mais...
Oui, oui.
Oui, oui. C'était dans le cadre d'un cabaret classique. Parce que moi, j'ai des goûts musicaux très, très éclectiques.
Oui,
de
oui.
la chanson à la musique de création contemporaine. J'aime tout ce qui est voix. Et puis en ce moment, je suis en train de travailler à un projet de création d'un opéra de Michel Tremblay.
Oui.
En fait, Albertine en 5 ans. Et cette fois-ci, je jouerai le rôle d'une femme de 70 ans. Et Albertine a 70 ans.
Notre Michel Tremblay national.
Oui.
Allez-y.
Non, ça, c'est, je parlais de ma passion. C'est une passion qui ne s'éteint pas, même dans la soixantaine maintenant. J'ai 63 ans maintenant et j'ai des projets comme ça de création qui m'arrivent et je me trouve une femme très chanceuse à la fois de partager l'univers des jeunes musiciens
oui.
et aussi de continuer moi-même à explorer tous les possibles de la création opéra.
Mmh. En mai 2016, vous avez été intronisée au Panthéon canadien de la lyrique.
Oui.
Voilà, ça c'est donc durant cet hommage d'ailleurs il y a le directeur artistique de l'Opéra de Montréal, Michel Bola, qui disait on doit écrire le mot artiste en lettres majuscules lorsqu'il s'agit de Chantal Lambert.
c'est de vous
qu'on parle comme ça.
C'est des beaux compliments.
Oui.
J'ai Michel Bolac, c'est mon collègue depuis tant d'années, et puis on travaille ensemble à l'opéra, et toujours.
Oui.
Il est toujours à la barre, et c'est vraiment quelqu'un qui ouvre des nouveaux sentiers pour la compagnie, qui crée justement de nouvelles œuvres, qui encourage les compositeurs d'ici. C'est formidable le travail qu'il fait. Alors, quand il dit des belles choses comme ça, ça me fait un velours, oui.
Votre professionnalisme, votre dévouement à la musique sont exemplaires. Et ont littéralement changé la vie de centaines de jeunes artistes ainsi que de collègues privilégiés dont il est. Il se dit, voilà, artiste en majuscule, c'est vous.
Je pensais jamais que cette entrevue allait tourner autour de moi.
Non, vous êtes la directrice de l'atelier oui. lyrique de l'opéra. Mais comment ça se fait si quelqu'un nous écoute dit, je fais partie de l'atelier lyrique de l'opéra de Montréal. Comment ça se passe, Chantal? Comment on s'adresse à vous pour être recruté? Comment vous recrutez vos jeunes?
En fait, chaque année, on tient des auditions pan-canadiennes.
Oui.
Donc, on lance l'invitation à tous les jeunes qui ont terminé leur parcours académique, soit dans des universités ou des conservatoires, et qui sont des jeunes Canadiens qui sont en tout début de carrière et qui ont besoin d'un coup de pouce pour se faire connaître et pour aller chercher les derniers éléments de formation qui leur manquerait encore.
Oui.
Donc, chaque année, on entend environ 100 à 130 candidatures et de ce nombre-là, on va sélectionner une dizaine de chanteurs que nous ramenons à Montréal pour une 4 jours d'évaluation où on apprend à les mieux connaître, où on voit un peu leur personnalité, on voit leur capacité à réagir à nos suggestions musicales, d'interprétation. Et aussi, on les fait participer à notre événement annuel pour les faire connaître du public montréalais,
oui.
le Gala Talent. Donc, lors de ce gala, ils vont tous chanter. Et puis, à ce moment-là, on va faire notre choix, qui est toujours difficile, parce que vous imaginez bien que si on entend environ 130 chanteurs, qu'on en sélectionne déjà 10, ces 10-là mériteraient de faire partie de notre atelier, mais on ne peut pas toujours les admettre parce que chaque année, on a un nombre à peu près maximal de 10 chanteurs qu'on accepte dans notre cohorte. Et comme c'est un stage qui peut durer de 2 ans à parfois 3 ans, dépendant des individus et des circonstances de leur vie,
oui.
On ne peut pas toujours libérer 10 postes d'emblée. Là. Alors, c'est ça. Cette année, par exemple, on a choisi 4 nouveaux chanteurs qui se joindront à nous au mois d'août de 2022.
Oui.
Et puis, la cohorte change un petit peu, il s'ajoute des nouvelles recrues. Puis, on essaie de créer une espèce de sentiment de troupe. Ils sont la troupe de l'Opéra de Montréal.
Oui.
Ils sont un peu aussi ce que les sportifs appelleraient le club école, dans le sens qu'ils sont là pour... ils sont en résidence professionnelle.
Oui.
Donc, on leur fait apprendre les rôles qui sont appelés à chanter dans les 5 prochaines années.
Oui.
Parfois, ils peuvent avoir des petits rôles aussi à l'opéra qu'ils peuvent remplir immédiatement. Donc, on est toujours content quand on peut, dès leur stage, leur accorder, de faire leur début. Et puis, on a des projets comme celui du soir avec les enfers des Lumières, où on a des projets avec des orchestres de Montréal, de la région, qui nous permettent aussi de leur donner davantage d'expérience avec les musiciens professionnels, parce que ça n'a pas de prix. Et je crois que notre atelier se distingue de ce côté-là parce qu'il donne souvent l'occasion à ces jeunes de chanter avec orchestre, comparativement à d'autres qui sont beaucoup encore avec le piano seulement, pour toutes sortes de raisons. Oui. Alors, voilà, c'est un stage où on met autour d'eux une équipe de formateurs. On appelle ça notre équipe 360 degrés, un peu comme font les sportifs, les sportifs qui ont à leur disposition toute une équipe de coachs et de spécialistes, que ce soit de nutrition, que ce soit entraîneur, que ce soit psychologue parfois quand c'est nécessaire. Donc, on a des gens autour d'eux qui sont capables de leur vraiment d'en faire des musiciens complets, des musiciens bien équipés pour une carrière en solo.
Oui, oui. Donc, Chantal a pensé que j'allais la recevoir sans parler d'elle aussi. On allait parler seulement du spectacle. Non, on n'a pas dit grand-chose sur vous. Hein. Quand je vois votre bio, votre parcours, mais c'est toute une série qui est là, quoi.
c'est toute une vie. Hein.
Oui.
Si je me compare aux jeunes, c'est sûr que je suis plus comme en fin de parcours, mais je leur souhaite d'avoir la chance de vivre une aussi grande variété d'expériences que j'ai eu la chance de faire.
Oui.
Il y a une de nos petites dans le spectacle de ce soir qui est narratrice aussi. Ça, j'en ai fait beaucoup de la narration et je trouve ça passionnant parce que le côté acteur m'a toujours interpellée vraiment beaucoup. Et puis, je trouve qu'on a ce double devoir de satisfaire à la fois les musiciens, les compositeurs, mais aussi les poètes et les librettistes qui ont travaillé très fort à la création de ces œuvres. Donc, chez nous, jeunes artistes, on essaie de vraiment développer au maximum leur jeu d'acteur aussi. On a des coachs pour ça. Mmh. Donc, ils sont choyés, ils sont vraiment bien entourés.
Je vous dis mille merci du fond du cœur.
Oh, c'est moi qui vous remercie. C'était très agréable.
Chantal Lambert, soprano et directrice de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, se produit aujourd'hui et demain en collaboration avec l'orchestre de l'Agora OA pour Les Enfers de Lumière. Je vous dis bon spectacle. Et puis bon, moi, je sais que je vais voir votre emploi du temps et puis demander à ma collaboratrice de vous recontacter pour venir parler uniquement de votre parcours, de votre carrière personnelle.
Un immense merci à vous, c'est très très gentil, j'apprécie beaucoup.
Bon spectacle à vous.
Merci et au plaisir de vous voir dans nos salles.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Oui.
El tipo que piensa en ti a toda hora. Que cuenta segundos si tú te demoras. Y que todo el tiempo él te quiere ver. Porque ya no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. Que firme te lleva de brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. Así como eres, y después del amor en su pecho te duermes, te acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo: ese tipo soy yo.
soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.
Et c'est Tipo Soyo. Merci beaucoup à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Bon, il y a la même heure, le même studio. Et on dit merci à notre invitée Chantal Lambert, soprano et directrice de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal pour le spectacle Les Enfers des Lumières, Enfers des Lumières avec l'Orchestre de l'Agora qui démarre aujourd'hui et demain. C'est aujourd'hui et demain. C'est allez, aujourd'hui et demain au Monument National qui est situé au 1182 boulevard Saint-Laurent. Merci à nos fidèles auditeurs. Ouais, et puis on les retrouve demain. Et je vous dis, ciao. Prenez soin de vos minutes.